Ce matin, je vais vous parler une vingtaine de minutes environ du baptême, de ce que c'est. Expliquer quelques idées là-dessus, parce que, évidemment, on ne fait pas le tour, c'est pas possible, c'est trop, c'est quand même beaucoup. Vous savez qu'il y a différentes approches dans le christianisme sur le baptême. Il y en a peut-être trois fondamentalement connues, une des trois qui est moins connue, mais vous savez, les christianistes, ça a comme 2000 ans d'histoire, et les chrétiens ont le don de rendre les choses simples, hein, comme vous savez. Il existe des centaines de familles d'églises différentes, avec des noms différents, issus de branches différentes, et puis c'est assez intéressant lorsqu'on essaie de démêler qui a dit quoi, quand, à qui et pourquoi. Tu sais. Et, donc, finalement, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des pédo-baptistes, des crédo-baptistes, et il y a des géronto-baptistes également. Je pensais que c'était une joke, mais c'est pas une joke. Donc, pédo-baptistes, ceux qui vont préférer le baptême des enfants. Et dans cette famille pédo-baptiste, il y a toutes sortes de pédobaptistes. Il y en a beaucoup. Bon. Après ça, il y a les crédobaptistes. Crédobaptistes, c'est la position qu'on a. Crédo veut dire que les gens sont baptisés à partir du moment où ils adhèrent à une confession de foi, un crédo. Donc, c'est pas enfant, c'est rendu à l'âge ou adulte ou presque, où ils sont capables de faire un choix eux-mêmes, de décider d'aller vers les eaux du baptême. Ah oui, j'ai oublié les offrandes. On va prier. Merci, Seigneur, pour les offrandes. Amen. Bon. Je ne veux pas perdre mon fil. Hein? J'étais rendu où? Crédo, oui, c'est ça. Donc, dans les crédos baptistes, encore là, c'est une approche également où on baptise les gens plus... Et il y a les géronto-baptistes aussi. Devinez ce que ça veut dire, géronto. Personne âgée, la gérontologie. Constantin, dit-on, le roi, et certains avaient décidé de se faire... Écoutez, c'est un concept intéressant, là. C'est l'idée que si je me fais baptiser et que je pêche après, je perdrai mon salut. Donc, il se disait, je vais attendre d'être presque mort. C'est vrai, là. Puis, c'est l'idée, quand je suis tellement affaibli que je ne peux plus vraiment pêcher, là, je suis cloué sur un lit, donc il se faisait baptiser là. Bon, vous voyez l'idée? Donc, il y a tout ça. Et pour rajouter de la simplicité à ça, vous avez remarqué que le mot « baptiste » dans chacune des trois positions. Mais la plupart des gens qui adhèrent à ces différents baptêmes-là ne sont pas des baptistes. Il y a des Pentecôtes qui ne se tiennent pas beaucoup avec des baptistes, qui sont souvent crédo-baptistes. Et vous avez les catholiques qui sont pédo-baptistes, mais qui ne sont pas du tout des baptistes, en fait, sont des catholiques. C'est ça. Est-ce que c'est plus clair? Je veux savoir. Donc, moi, je vous invite à prendre des cours à la faculté de théologie. Ça va vous permettre de brasser. Mais en même temps, c'est extrêmement sérieux. En fait, pour vous dire, la raison pour laquelle le mot baptiste se retrouve dans les trois expressions, surtout les deux premières, c'est qu'il ne s'agit pas baptiste ici, pas associé à la famille d'Église baptiste, mais à la forme de baptême. Donc, c'est toujours du baptisme. Tous les chrétiens pratiquent le baptisme. C'est-à-dire qu'on a une chose en commun dans toutes les familles chrétiennes des 2000 dernières années, c'est qu'on croit qu'il est vraiment important d'être baptisé. C'est une des ordonnances du Nouveau Testament. Et au fond, quelle que soit l'approche, ce qui est surtout important, c'est d'ajouter toute l'importance que ça mérite, le baptême. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on le célèbre aujourd'hui. Moi, je suis vraiment béni. Mes deux garçons vont être baptisés aujourd'hui. C'est vraiment une fierté pour ma femme et moi. Et sachant tout l'investissement que ma femme a mis dans mes enfants, c'est vraiment important pour elle. fait l'école maison. C'était investi beaucoup et c'était important pour nous. Le livre des Proverbes nous a beaucoup influencé sur la question de l'éducation. La formation de M. Ezo également, ça a été extrêmement important pour nous dans la forme d'approche d'éducation et d'instruction qu'on allait amener à nos enfants. Donc aujourd'hui, c'est sûr que c'est comme c'est pas une finalité, mais on entre dans une... une réalité qui a nécessité beaucoup d'investissement. Et c'est vrai pour nous, mais c'est vrai pour plusieurs autres familles ici. Il y en a plusieurs autres qui vont faire baptiser aujourd'hui et qui vont voir se faire baptiser leurs enfants. Je pense au beau livre de Jacob ici et plusieurs autres. Et il n'y a pas juste des jeunes qui se font baptiser, mais il y a beaucoup de nos jeunes aujourd'hui qui le font. Et une des choses importantes, c'est qu'on soit croyant ou pas, s'il y a une réalité ou s'il y a une chose qui est vraiment importante pour des parents, c'est de pouvoir amener nos enfants à traverser les différentes étapes de la vie depuis la naissance jusqu'à ce jour où ils vont apprendre à se faire une vie, puis à se faire une place dans cette vie ici. Puis c'est vraiment pas facile. On est dans un monde extrêmement complexe, extrêmement difficile. Et malgré la multitude des droits et libertés et privilèges et protections civiles qu'on a par les chartes, par les lois, on est dans un pays parmi les plus sécuritaires du monde au Canada. C'est vraiment une bénédiction d'être ici. Ce matin, pendant qu'on se parle, il y a des chrétiens qui se font agresser partout, surtout en Asie en ce moment. Ça va très, très mal. Et puis nous, on voit ça comme une grâce de pouvoir être juste, bien protégé. Mais malgré qu'on est protégé ici, malgré qu'on est bien, ça reste que c'est un monde extrêmement complexe. Ça va mal pour beaucoup de gens, ça va mal pour beaucoup de jeunes. Et c'est certainement le rêve des parents de pouvoir amener leurs enfants dans les différentes étapes de la vie. Vous savez, il y a à peu près 5-6 ans de ça, il y a un homme, c'est pas ici que ça s'est passé, j'avais fait une conférence sur l'éducation, puis il y a un homme qui était venu me dire quelque chose d'assez particulier. Il dit, moi, quand j'étais jeune, il dit, avec mes frères, on sortait puis on allait veiller le samedi soir. Puis il dit, ma mère ne dormait pas tant qu'on n'était pas rentré. Puis quand on était rentré, elle pouvait dormir. Y a-tu des mères qui ont déjà vécu ça ici? D'autres, les pères ont un peu plus... on se dit, oh, s'arrangeront. Pasteur Jeff me disait ça, il dit, les mères investissent dans leurs enfants pour les garder, puis dit, nous autres, les pères, on les pousse dehors, ça prend les deux. Bref, cet homme-là me disait ça, mais il dit, sais-tu, il dit, aujourd'hui, il dit, moi, il dit, j'ai une fille, puis il dit, aujourd'hui, nous, on s'inquiète pour quand notre fille s'en va à l'école, parce qu'elle se fait harceler à l'école, puis on peut rien faire. Vous voyez, être parent pour avoir des enfants, ça suffit pas. Il y a un ensemble d'étapes qui viennent ajouter au bonheur ou des fois au malheur. Et c'est un monde très complexe. Il y a beaucoup d'harcèlement. Il y a beaucoup de gens qui sont victimes d'harcèlement. On a beau, dans notre société, vouloir régler ces problèmes-là par toutes sortes de formes d'intervention. Puis je pense que les gens qui interviennent essaient de le faire du mieux qu'ils peuvent. Puis à la fois, on dirait que ça continue, ça s'aggrave. C'est le problème de la condition pécheresse. Et dites-moi, est-ce qu'il y a quelque chose de pire que d'être victime de harcèlement? Oui. Être le harceleur, c'est encore pire. Un harceleur, c'est quelqu'un qui est un loser, c'est quelqu'un qui est petit dans sa tête et que la seule façon qu'il a trouvé de se trouver grand, c'est de harceler des gens. Lui aussi, il vit un drame. Lui aussi, c'est un problème. Et comme parents, on a réellement une responsabilité à la fois de protéger nos jeunes lorsqu'ils sont harcelés. Il faut vraiment savoir mettre notre pied à terre dans ça. Et il faut watcher que nos jeunes ne soient pas des harceleurs non plus. Il faut être extrêmement attentif. Parce que les conséquences plus tard sont encore pires pour celui-là. Je pense. Tout ça, ça pose un problème... dans notre monde, réussir sa vie, c'est quoi? C'est lorsqu'on est des parents, parce qu'on souhaite, c'est de voir nos enfants grandir, être bien éduqués, suivre des bonnes études. On souhaite les voir avoir un bon métier plus tard. On souhaite, On souhaite les voir se marier, trouver un conjoint qui a du bon sens. Tout le monde veut ça. Un jour, ils vont avoir une maison. Donc, il y a toutes ces étapes-là. Puis, à chaque fois qu'ils franchissent une étape, parce qu'il n'y a pas un parent, c'est pas une question d'être croyant ou non, là, cette affaire-là. C'est une réalité humaine qu'on vit tous. Mais pour des croyants, il y a comme une réalité qui s'ajoute. Il y a comme un bonus qui s'ajoute. Pour nous, c'est lorsque nos enfants décident de confesser publiquement qu'ils croient en Jésus et que c'est plus seulement le Jésus ou le Dieu de la famille, de leurs parents qui suivent depuis qu'ils sont jeunes. Mais se faire baptiser, c'est décider que ce Dieu est le mien aussi. Je l'ai connu, je l'ai rencontré, je confesse qu'il est le Seigneur, je confesse que je suis pécheur et je confesse qu'il est le Seigneur mort en croix et qui me lave et qui me pardonne de mes fautes. Donc ce matin, c'est ce qu'on va voir ici, c'est des jeunes, des gens qui ont vraiment saisi cette réalité-là comme extrêmement importante. On vit dans un monde pécheur. Vous savez, le mot péché, c'est le mot, là, en lui-même, il sonne mal. On dirait que ça appartient au lexique d'un autre temps. Péché, ça, au Québec, entre autres, ça résonne. Tu sais, des religieuses, des sœurs, des curés qui disaient ça, puis que c'est péché, c'est comme... des fois, on essaierait de trouver un autre mot pour... mais il n'y en a pas de meilleur, en fait. Être un chrétien, c'est pas d'être quelqu'un de meilleur que les autres, c'est être quelqu'un qui a compris à quel point il était plus mal pris que tout le monde. C'est d'avoir vu sa condition pécheresse, de l'avoir vraiment senti. Donc, on ne devient pas chrétien pour être meilleur que les autres. On est chrétien parce qu'on a vu qu'on pourrait être les pires et qu'on a réellement besoin d'un sauveur. Ce monde, face au mal, face au péché, a trouvé comme principale solution, entre autres solutions, de légaliser les choses. Notre monde est tellement débordé par la folie, la bêtise humaine, qu'on sait tellement plus comment régler ça, qu'on légalise. On va légaliser le pot prochainement. Donc, on va décriminaliser tout un secteur d'activité sociale. Puis, on décriminalise toute la question de l'euthanasie. On décriminalise pour toutes sortes de raisons qu'on se donne, qui sont sociologiquement, intelligemment apportées, mais qui, au fond, sont toujours juste des solutions pour régler des problèmes qu'on n'arrive pas à régler. Si vous croyez que le monde va bien, je vais vous poser une question. Quand vous arrivez, vous roulez sur une route en auto, l'hiver, et que vous voyez au loin des phares de police, des gyrophares qui tournent, s'il y a juste une auto de police derrière une autre auto, vous vous dites, c'est pas grave, il vient de pogner une étiquette. Si il y a deux autos de police derrière la voiture, vous vous dites quoi? C'est un peu plus grave. S'il y a trois autos de police, vous dites, OK, lui ça va pas bien. S'il y a une ambulance... Et un auto viré sur le capot dans le champ, plus deux camions de pompiers, et que là, ça flash partout, vous vous dites, c'est grave ce qui vient d'arriver. Donc, comment on fait pour vérifier à quel point une situation est dramatique? La meilleure mesure, c'est le nombre de moyens qu'on prend pour le régler. Dans nos sociétés modernes, on veut régler des problèmes. Et c'est assez important, on va vous donner juste le nombre d'institutions que nos sociétés se sont données pour régler les problèmes de bêtises humaines. Les gouvernements. À quoi sert un gouvernement? Gouverner, gérer le chaos. Vous enlevez le gouvernement dans un pays... C'est épouvantable ce qui se passe. Donc, les gouvernements ont été donnés pour ça. Les tribunaux, c'est un autre outil pour régler le chaos, pour le gérer. La police, l'armée, les hôpitaux, ça gère quoi les hôpitaux? Ça gère un autre genre de problème qui est imputé au mal, au péché, à la destruction de nos vies. Même la recherche, l'éducation... Si le mal n'existait pas, si le péché n'existait pas, toutes ces choses seraient inutiles. Imaginez-vous l'économie. le nombre de personnes qui perdraient leur job. Vous pourriez vous promener au centre-ville de Montréal, mesdames, la nuit, sans aucun problème. Notre monde, même s'il nie la réalité du péché, organise sa société autour de l'évidence qu'il existe. Tous les budgets vont juste essayer de contrôler la folie. Et on y arrive un peu, à peine. Fait que pour nous qui sommes croyants, la réalité du péché, c'est une réalité tellement évidente. Et c'est ce que Jésus-Christ est venu régler. Il n'est pas venu nous faire la morale, il n'est pas venu excuser le péché, il n'est pas venu légaliser le péché, il est venu pardonner le péché. Et il ne peut le pardonner que dans la mesure où on se reconnaît pécheur. Je vais vous lire, là, je vais mêler tous mes feuilles, que ça m'arrive souvent de faire ça. Où suis-je? Où suis-je rendu? Ça va là. Bon. Non, ça il manque un bout. OK, bon. Vous savez, on est credo-baptiste et ce matin, je vais vous lire l'article, le chapitre 29 de la Confession baptiste de 1689. On va vous le montrer au tableau. Le baptême est une ordonnance du Nouveau Testament instituée par Jésus-Christ afin d'être pour le baptisé un signe de communion avec Christ dans sa mort et sa résurrection et son insertion en lui de la rémission des péchés et de son offrande de lui-même à Dieu par Jésus-Christ pour vivre et marcher en nouveauté de vie. Donc, chapitre 29, article 1. Article 2. Il y en a 98, on devrait y arriver assez rapidement. Bon, il y en a 4. Ceux qui professent de fait la repentance envers Dieu et la foi et l'obéissance au Seigneur Jésus-Christ sont les seuls sujets aptes à recevoir cette ordonnance, le baptême. 3. L'élément extérieur à utiliser dans cette ordonnance est l'eau, dans laquelle le candidat est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 4. L'immersion ou le fait de plonger la personne dans l'eau est nécessaire pour que cette ordonnance soit légitimement administrée. Donc, Confession baptiste 1689 qui explique précisément ce qui va se passer ici ce matin. Troisième point, je termine là-dessus. Je vous disais tout à l'heure qu'on est, pêcheur. C'est une évidence. Qu'on l'accepte ou qu'on le refuse, ben on l'est quand même, de toute façon. La solution se trouve en Jésus-Christ et nulle part ailleurs. La Bible est le seul livre qui explique l'origine du mal et du péché, qui explique après ça comment on gère ça et qui explique également comment Dieu règle ça. C'est pour ça qu'on aime l'Écriture. L'Écriture n'est pas un livre qui incite à la violence, mais qui incite à la rédemption, à la paix et la connaissance de l'amour de Jésus-Christ. Ça fait vraiment du bien, je vous le dis, ça fait vraiment du bien. Ça change les vies, ça transforme des cœurs, ça transforme des caractères, ça transforme des familles, ça restaure des mariages, ça fait vraiment des belles choses. La parole de Dieu, la vie chrétienne. Il y a trois textes rapides que je vais vous lire. Ils sont dans Romains. Romains 1, Romains 2, Romains 3. Trois chapitres qui sont dans un ordre extraordinaire. Je veux juste qu'on comprenne à travers ces trois textes-là que la condition humaine, qui qu'on soit, le péché nous a atteints. Quelle que soit la langue qu'on parle, la race qu'on est, où on est né, peu importe le siècle, peu importe quand, comment, peu importe ce qu'on pense, peu importe notre niveau d'intelligence, notre niveau d'instruction ou notre niveau de pas d'instruction pantoute, il n'y a rien qui change rien. Que vous soyez dans la misère extrême ou pas dans la misère du tout, ça ne change rien. Vous êtes favorisé par aucune de toutes ces conditions-là, favorables ou non. On est pécheurs et la solution reste la même pour qui que ce soit d'entre nous. Dans Romains chapitre 1, l'apôtre Paul parle des païens. Païens au sens non-juif. dans le contexte, pas païen au sens péjoratif, c'est quelque chose de presque méprisant, traitant quelqu'un de païen, mais en fait, nous sommes des païens chrétiens, parce qu'on n'est pas des juifs. Bon, c'est ça l'idée. Et Paul explique dans Romains chapitre 1 que les païens qui n'ont pas reçu les oracles de Dieu, qui ont vécu une vie naturelle, sans Dieu, sans révélation, sans parole, se sont égarés dans leurs pensées. Verset 20, « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. » En parlant des païens, il va dire « Ils sont donc inexcusables. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. » Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Lorsque Paul exprime cette idée, il n'est pas en colère. On pourrait penser que c'est un discours d'un gars frustré, là, qui engueule des païens, mais Paul est en train de juste déclarer un fait théologiquement juste. Ceux qui ont connu Dieu, mais simplement par des voies plus naturelles, ça n'a pas suffi à les faire rencontrer Dieu, ils se sont égarés. Donc, on pourrait dire, OK, c'est normal, Dieu ne leur avait pas parlé. Mais au chapitre 2 de Romains, il s'adresse à des Juifs. Qui sont les Juifs? Ceux qui ont reçu les oracles de Dieu. Écoutez, est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu n'a pas fait envers ce peuple pour montrer qu'il existe et pour leur révéler leurs conditions et leurs besoins de lui? Il leur a pas seulement donné la loi de Moïse, qui était le miroir parfait de la condition humaine, il les a visités. Il a ouvert une mer devant eux. Il les a nourris pendant 40 ans au désert. Il les a amenés dans un pays où coule les lait et le miel. Il est même apparu pratiquement à certains d'entre eux. Il s'est révélé et au-delà de 600 prophéties l'annonçaient d'avance. En d'autres mots, tout ce que Dieu pouvait faire pour se faire se rendre visible à un peuple, il le fait pour le peuple juif. Et devinez quoi? Un jour, tel que les prophéties l'attestaient, il s'est présenté en Israël. Ils ne l'ont pas reconnu. Quand même. Ils ne l'ont pas reconnu. Des Babyloniens, des mages de Babylone, eux autres, avaient des textes, puisqu'il y avait beaucoup de Juifs en Babylonie, depuis l'exil, avaient vu, dans des textes, avaient vu que le Messie devenait des païens, qui n'étaient pas supposés de le voir. Eux ont vu, mais le peuple de Dieu élu n'a rien vu. Mais ils ont fait pire que ça. Ils se sont ligués avec les païens puis ils l'ont crucifié. Ça montre l'aveuglement du genre humain. Moi, je n'accuse pas les Juifs ce matin. Si j'avais été là, j'aurais fait la même chose qu'eux autres, je suis sûr. Qu'est-ce que montrent ces deux histoires-là? À la fois l'égarement des païens et la bêtise du peuple juif, ça montre ce que le chapitre 3 de Romains nous amène, c'est que tous sont égarés au fond. Dieu n'est pas déçu que les païens passent à côté et il n'est pas plus déçu que les juifs aient passé à côté. Il a fait ainsi des choses pour que tout le monde voit que même s'il donnait les conditions gagnantes à la puissance plus à un peuple, même ce peuple ne le verrait pas. On ne trouve pas Dieu, c'est lui qui nous trouve. Dernier texte, et je termine là-dessus, c'est ce que Paul va dire au chapitre 3, verset 23. « Car tous, ici dans le contexte, païens et juifs, c'est universel, mais Paul avait en tête ce qu'il avait dit dans les deux premiers chapitres, « Car tous ont péché » et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. »